Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous politique de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invitée jusqu'à 13h est la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Vos questions, vos commentaires sont les bienvenus pour intervenir. Un mot-clé, Question Paul.
France Inter, Questions politiques, Ali Badou.
Avec moi en studio, l'équipe du dimanche, Jeff Wittemberg de France Télévisions. Bonjour Jeff.
Bonjour Ali.
Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali.
Et Karine Bécart de France Inter. Salut Karine.
Salut à tous.
Avant d'accueillir Nicole Belloubet, le rapide tour de table traditionnel, on démarre avec vous. Jeff, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine?
Eh bien, ce qui a retenu mon attention cette semaine, c'est l'évacuation par les CRS de la faculté de Tolbiac à Paris, dont j'ai eu la confirmation par notre invité du jour qu'elle se trouvait, cette université, dans une cuvette. Une situation géographique particulière, je cite Nicole Belloubet, et du coup, ce n'était pas évident pour les force de l'ordre d'intervenir alors que le président de Tolbiac le réclamait depuis plusieurs semaines, une sorte de camp retranché en plein Paris donc. Tout cela au moment où une autre place forte en pleine campagne, celle-ci vous avez bien sûr reconnu Notre-Dame-des-Landes, s'oppose sans répit depuis maintenant 2 semaines au retour de l'ordre. On va voir si la situation évolue à partir de demain et pendant ce temps, que se passe-t-il à la SNCF? La grève semble perdre de sa vigueur mais les syndicats, la CGT en tête, résistent encore et toujours à la réforme injuste telle qu'ils la considèrent. Bref, c'est un peu Ali comme si le syndrome de l'irréductible village gaulois s'était emparé du pays en ce printemps 2018, certes loin pour l'instant des mouvements de masse qui avaient bloqué la France il y a 50 ans, mais quand même révélateur d'une certaine ambiance. Bien sûr, il y a les sondages, ceux qui réjouissent l'Élysée et qui disent qu'une majorité de Français applaudit la fermeté, voire la méthode forte face aux récalcitrants. Mais il y a aussi une autre France toujours plus frondeuse, plus violente dans ses réactions. On est quand même assez loin du peace and love de l'après-mai 68. Et cette France-là aussi, elle progresse.
Mais qui sont Astérix et Obélix dans ce village retranché?
C'est toujours les Romains qui gagnent dans cette partie-là, mais ça laisse un peu d'amertume.
Pas dans la BD. Françoise, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine?
Alors c'est l'Europe avec cette semaine deux rendez-vous, le discours d'Emmanuel Macron mardi devant le Parlement européen et vendredi la rencontre à Berlin avec la chancelière allemande. Et dans les deux cas, l'impression que ça patine, que rien n'avance, que tout est extraordinairement difficile pour celui qui prétendait transformer l'Europe. On dit souvent que la France est irréformable. Nuance, elle grogne beaucoup, mais elle bouge. Alors que l'Europe, depuis un an, les avancées se comptent sur les doigts de la main. Un peu plus d'Europe de la défense, un peu moins de laxisme dans l'accueil des travailleurs détachés, mais pour le reste. Alors bien sûr, ce n'est pas la faute de notre président. Si les vents sont contraires, si partout, y compris en Allemagne, la poussée populiste contrecarre la volonté de ceux qui voudraient une zone euro plus intégrée, plus solidaire, à peine sortie de son long tunnel électoral, la chancelière se montre d'une prudence de sous, comme muselée par la droite allemande, qui ne veut pas d'un budget de la zone euro ni d'un FMI européen. Sur la scène européenne, Emmanuel Macron apparaît désespérément seul, comme si son charme, celui dont parle la chancelière, se heurtait à plus fort que lui. Et revient à cet instant le portrait très juste que François Hollande dresse de son ancien conseiller dans son livre Les leçons du pouvoir. Je cite « Emmanuel Macron croit volontiers que tout dossier peut être réglé dès lors qu'on s'y attaque avec fougue, que tout risque de conflit peut être surmonté par un dialogue direct entre personnes de bonne foi, que toute difficulté peut être dépassée par une forme d'impétuosité. Il est sûr que le réel se pliera de bonne grâce à sa volonté dès lors qu'elle s'exprime. La vie est parfois plus décevante. »
Parole d'ancien président de la République, vous recommandez la lecture de Leçons du pouvoir?
Sur certains aspects, le livre est très intéressant. Sur d'autres, il apparaît quand même d'une grande mauvaise foi parce qu'on sent un président qui n'a pas réalisé qu'il avait quand même été perdu, qu'il avait perdu une élection.
Merci,
même s'il n'était pas présenté.
Karine.
Alors moi, il y a une image cette semaine qui m'a beaucoup marquée, c'est celle du président en déplacement à Saint-Dié-des-Vosges, alpagué, interpellé, on va dire, un peu vivement, encore une fois, par un certain nombre de personnes et notamment des cheminots. Ça a donné, je trouve, cette image d'un président assez seul, qui est toujours entouré de pas grand monde pour le défendre, quoi. C'est lui, en fait, qu'on vient chercher et qu'on attaque. Alors c'est vrai que si on regarde les forces en présence, on a un gouvernement... Il l'a décidé comme ça, mais avec beaucoup plus d'experts, c'est le cas de l'invité d'ailleurs qu'on a aujourd'hui, qui sont des experts et pas tellement des politiques. Un politique, lui, il sait monter au front si c'est nécessaire, il sait rendre des coups si jamais il le faut pour protéger son président. Bah, on ne demande pas ça à des experts, effectivement. On a une majorité à l'Assemblée avec des députés qui ont travaillé là pendant un an, qui se sont améliorés, qui ont appris à fonctionner à l'Assemblée, mais de là à aller taper, j'ai envie de dire, quand parfois c'est nécessaire dans les médias, on a le sentiment qu'ils aiment pas faire ça, en fait. Ils aiment être sur le fond, ils sont sur leur dossier. Et on a un président de ce groupe, Richard Ferrand, qui pareil, quand on observe par rapport au président de groupe chez les Républicains à droite, qui a du mal à les coacher, a du mal à les utiliser, a du mal à leur demander de monter au front quand c'est nécessaire. Et donc du coup, la question c'est, est-ce que tout ça gêne Emmanuel Macron ou pas, cette quasiment solitude? Alors en soi, il l'a mise en place, il voulait en fait ce système-là. Ça fait partie de l'image qu'il a envie d'afficher de lui, capable de répondre à tous les coups, ce président seul devant, face à tout le monde. Le problème, c'est que le quinquennat dure quand même, comme son nom l'indique, 5 ans. Est-ce qu'il va être rattrapé par le propre système qu'il a mis en place? Ça, c'est toute la question.
Merci Karine. 12h10, qu'est-ce qui a marqué notre invité dans l'actualité de cette semaine? On va le lui demander. Elle présentait ce vendredi au Conseil des ministres la future réforme de la justice. Un projet de loi, je cite, pour une justice plus simple, plus efficace et plus accessible. Les termes sont entre guillemets. La réforme suscite une forte opposition, c'est les avocats et les magistrats. On accueille maintenant dans le studio 221 de la Maison de la Radio, Nicole Belloubet, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Et bienvenue, prenez place à notre table. Beaucoup de questions à vous poser, vous vous en doutez. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité ?
Cette semaine, sans doute, la récente annonce de Kim Jong-un de cesser les tirs balistiques. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant dans un monde, dans un paysage mondial qui est quand même très tendu sur beaucoup de zones. Alors, je ne me fais pas d'illusions sur ce qui sous-tend cette décision, mais malgré tout, cet apaisement me semble bienvenu.
On va revenir en France avec ce manifeste que vous avez lu et que publie Le Parisien aujourd'hui en France. L'ancien directeur de France Inter a rédigé donc un texte qui réunit plus de 250 signataires, parmi eux trois anciens premiers ministres, Nicolas Sarkozy, des intellectuels, des artistes. Ils dénoncent tous un nouvel antisémitisme en France, la terreur de certains juifs de France, une épuration ethnique à bas bruit qui aurait cours dans le pays. Est-ce que vous auriez pu signer ce texte, Nicole Belloubet ?
Oui, sans doute. Sans doute, je trouve que il y a là, pour notre pays, comme d'ailleurs pour tout ce qui va caractériser les exclusions, la haine, je trouve qu'il y a là un danger sur lequel on doit être vigilant. Et je crois que c'est ce qu'a souhaité souligner le Premier ministre lorsqu'il a présenté son plan de lutte contre l'antisémitisme et la violence.
Est-ce que vous partagez le diagnostic que fait ce texte, le silence coupable de certaines élites françaises? Ceux qui voient dans l'antisémitisme d'une partie de ces islamistes une expression d'une révolte sociale.
Je ne sais pas si le silence coupable est partagé par toutes les élites. Je crois qu'il faut là aussi être mesuré. Il faut prendre conscience de cette violence antisémite qui est réelle, que l'on peut observer sur à plusieurs signes et à plusieurs niveaux. Mais le silence n'est pas partagé. Encore une fois, lorsque le gouvernement réagit, et s'il réagit, c'est parce qu'il y a une volonté qui est partagée par beaucoup d'élites, ou même pas par des élites d'ailleurs, qui est partagée par beaucoup de Français, de lutter contre cet antisémitisme, je crois que c'est très important.
Jeff.
Le plan que vous aviez lancé au printemps, je crois, prévoyait notamment une lutte accrue contre l'antisémitisme qui se diffuse sur Internet et sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez des premiers résultats de cette lutte? Comment on fait déjà? Et à quoi ça aboutit aujourd'hui?
Alors, Nicole Belloubet.
Ce plan-là, le Premier ministre l'a lancé récemment. Hein.
Oui.
Il l'a lancé très récemment. Oui, vous dites au printemps, c'est vrai que le printemps, nous y sommes. Il l'a lancé très récemment, donc c'est trop tôt pour avoir des résultats. Mais je dirais simplement deux choses. D'abord que pour mon ministère, il y a une volonté farouche de lutter contre l'antisémitisme. J'ai signé il y a quelques semaines une circulaire à l'attention de tous les procureurs généraux. Cette dimension-là y est expressément notée.
Faut-il faire de cette lutte une cause nationale?
Oui, c'est une cause nationale, bien sûr. Si le Premier ministre s'empare de ce dossier-là, mais si le Premier ministre s'empare de ce dossier-là et s'il y répond, non seulement en termes de justice, mais en termes d'éducation, mais en termes également de lutte contre les propos haineux qui sont diffusés sur Internet et sur lesquels nous allons agir, non seulement en France, mais en Europe, pour qu'il y ait une politique partagée, je crois qu'il y a vraiment une volonté qui est très marquée.
Françoise Fressoz, puis Karine.
À ce micro, Bernard-Henri Lévy expliquait qu'en fait, le vieil antisémitisme français, celui de la droite et d'une partie de l'extrême droite, avait assez diminué, mais qu'en revanche, un nouvel antisémitisme montait, c'était celui de certaines communautés arabes, islam. Est-ce que vous craignez une guerre des communautés en France à partir de la lutte contre l'antisémitisme ?
En tout cas, nous devons tout faire pour éviter cette guerre des communautés. La France, par construction, est un pays de la mixité, c'est un pays de la cohésion. Et vraiment, nous ferons tout ce qu'il est possible pour s'opposer à cette guerre des communautés.
Mais vous êtes inquiète pour répondre à
Françoise ? Je crois qu'il y a des risques partout. Il y a des risques partout. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons vraiment de lutter par l'ensemble des mesures dont je parlais tout à l'heure.
Karine.
Mais donc du coup, pour prolonger la question de Françoise, est-ce que ce genre de tribune n'est pas finalement maladroite ? C'est-à-dire qu'on se montre aux côtés d'une communauté à défaut d'une autre ? Comment va réagir la communauté arabe par rapport à ça ?
Elle est révélatrice d'une inquiétude. Elle est révélatrice d'une inquiétude. Et je pense qu'en tant que telle, il faut la prendre comme l'expression de cette inquiétude. Mais vous savez, lorsqu'il y a eu la marche blanche pour Madame Knoll, les personnes qui défilaient représentaient la communauté de la nation tout entière. Il y avait des imams, il y avait des rabbins, il y avait des citoyens lambda, il y avait des membres du gouvernement. C'était la nation rassemblée. Et donc, je pense que si cette tribune traduit une inquiétude, il faut bien entendu y répondre par cette volonté de cohésion.
Françoise ?
Non, sur ce sujet, j'ai terminé.
Alors, on va donc passer maintenant au zapping politique. Il est signé cette semaine, Aurélien Colli.
On lui reprochait d'être absent sur les conflits sociaux, la tête dans les étoiles de la République et loin du peuple, au chevet des élites. Mais Emmanuel Macron a rythmé la semaine en redescendant dans l'arène.
Je ne souscris en rien au fait qu'il y aurait une coagulation.
Votre énervement témoigne d'un...
Je ne suis pas énervé, pas plus que vous.
Lundi, c'est son face-à-face avec Mediapart et BFM qui fait jaser ses opposants, comme le député LR Guillaume Larrivé.
C'est une émission qui, sur la forme, était faite pour faire buzzer. J'ai trouvé le président de la République souvent très énervé. Il y a peut-être un peu de fébrilité.
Dans le camp du président, ce sont les intervieweurs qui en prennent pour leur grade. Jean-Jacques Bourdin, Edoui Plenel, sans cravate et beaucoup trop familier avec un président de la République, à en croire la députée En Marche, Aurore Berger.
Ouais, c'est vrai que le ton m'a un peu étonné parfois. J'avais plus l'impression d'être en fait entré l'accusé.
Mardi, c'est devant le Parlement de Strasbourg qu'Emmanuel Macron vient parler. Discours sur l'Europe et procès intenté cette fois par un porté disparu de la politique française, l'eurodéputé Florian Philippot.
Votre jury est là, dans les rangs de la Commission européenne. Et c'est lui qui chaque jour vous évalue. Rassurez-vous, votre note sera excellente. Parce que votre discours a repris, sans surprise, tous les canons du catéchisme européen.
Après l'Alsace, les Vosges, mercredi, pour Emmanuel Macron, à Saint-Dié, comité d'accueil musclé de cheminots et un président qui va au contact.
Mais arrêtez, je suis là pour répondre. Écoutez,
combien vous êtes prêts à bouger, les amis ?
Bon, bougez, ceux qui sont au CAC 40 là-haut.
Pour 454... Contre 80, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire.
La rue gronde, mais l'Assemblée vote le pacte ferroviaire. Pour la droite qui a donné ses voix, difficile de se poser en opposant. Numéro d'équilibriste confié au député Jean-Marie Sermier.
Nous aurions eu de nombreux arguments pour ne pas voter ce texte. Le régime spécial des retraites est renvoyé à une date future. Pour autant, les députés des Républicains ne sont jamais en posture politicienne. Ils n'ont pour boussole que l'intérêt de la France.
Pour la gauche qui a voté contre, ce pacte ferroviaire, c'est la fin du service public, une loi pleine d'inconnus sur la dette, sur les petites lignes. Et c'est le député socialiste Christophe Bouillon qui résume en une formule.
Cette réforme, c'est sans doute une réforme à trous. Il y a beaucoup de trous, c'est-à-dire beaucoup de flou, et sans doute beaucoup de loups.
Je suis un loup qui jadis était très méchant. Mais qui par malheur un jour s'est cassé les dents sur une grand-mère solide comme un roc. C'est à l'envers, c'est une triste époque.
La séance est ouverte.
Des trous, du flou, un loup, c'est aussi ce que pense la droite sur le projet de loi asile-immigration. À la tribune, Gérard Collomb défend un texte équilibré qui allie fermeté et humanité. Dans l'hémicycle, la gauche et une poignée de frondeurs de la majorité déplorent une fermeté déshumanisée. Fermeté de façade pour la droite qui dénonce, elle, un plan caché du gouvernement pour régulariser des milliers de sans-papiers.
Nos collègues ont posé des questions très claires. Vous refusez d'y répondre.
Le président du groupe LR, Christian Jacob, met la pression sur la ministre Jacqueline Gourault qui a pris le relais de Gérard Collomb pour défendre le texte. Au final, incident de séance.
Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Et vous voyez comment vous réagissez. Ce sont des méthodes
autoritaire. On ne fait pas de pression ainsi.
Le FN se délecte avec un contre-projet draconien présenté dès lundi. Il regarde la droite surenchérir sur son thème de prédilection, l'immigration. Fin du droit du sol, organisation d'un référendum. Mais le porte-parole de LR, Gilles Platret, se défend de tout copier-coller.
C'est pas parce qu'un camion de pompiers est rouge et que Madame Le Pen dit qu'il est rouge que le camion de pompiers est vert. On se moque de ce que dit Madame Le Pen.
Marine Le Pen, elle, ne se moque pas de cette droite qui légitime finalement ses propositions. Après un hiver déprimé, voilà qu'un sondage en fait en plus la première opposante à Emmanuel Macron, loin devant Laurent Wauquiez, loin aussi devant Jean-Luc Mélenchon et sa France insoumise, qu'elle se paye sur son autre thème favori, l'ordre contre le désordre à Notre-Dame-des-Landes ou dans les facs.
Non, les étudiants n'occupent pas les universités. La France insoumise, accompagnée de ses punks à chiens traditionnels, occupe les universités. C'est pas exactement la même chose.
Moi je suis un punk avec un chien.
Merci Aurélien, et le grand sourire de notre invité Nicole Belloubet devant l'expression punk à chien. Qu'est-ce qui vous fait rire, Madame la Ministre ?
Oh, rien, c'est une expression que mes fils utilisent parfois et voilà.
Et elle vous paraît adaptée ?
Pas complètement, non.
Pas complètement ?
Non, pas complètement. Non.
Donc un petit peu ?
Non, alors pas du tout. En l'occurrence, si on parle des universités, moi je parle pas de punk à chien, je parle d'une résistance qui est abusive, qui est excessive, mais pas de punk à chien.
La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, notre invitée ce dimanche.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Et avant d'entrer dans le cœur de la réforme de la justice, votre portrait, Nicole Belloubet, il est signé Karine Bécard.
Nicole Belloubet, vous avez donné l'impression d'entrer comme par effraction dans ce gouvernement. Vous n'avez évidemment rien volé à personne, là n'est pas la question, mais vous ne connaissiez pas du tout Emmanuel Macron. La femme de gauche que vous êtes, plutôt tendance Jaurès, ne connaissait pas non plus le Premier ministre, Édouard Philippe. Et vous avez souvent raconté avoir été sollicité quelques heures seulement avant d'être nommé. Donc vous avez été propulsé par ce nouvel exécutif, à la fois parce que vous êtes une vraie spécialiste, une agrégée de droit public, et puis surtout parce qu'il fallait remplacer François Bayrou, un profil plus politique, mais mis en cause dans une affaire d'emploi fictif. Maintenant, ce qui est surprenant, Nicole Belloubet, c'est que vous êtes ministre de la Justice, alors que vous auriez pu, de la même façon, devenir ministre de l'Éducation. Je m'explique. Certes, vous êtes une éminente juriste, mais vous avez aussi tout un cursus administratif. Vous avez été, à 42 ans seulement, une des plus jeunes rectrices. Rectrice de l'Académie de Limoges d'abord, et de l'Académie de Toulouse ensuite, ce qui vous a amené, comme tout est enchevêtré chez vous, à faire de la politique et à devenir, c'était en 2010, première vice-présidente de la région Midi-Pyrénées, chargée de tous les dossiers liés à l'éducation. Du coup, je vous pose la question, qu'auriez-vous préféré, Nicole Belloubet, la place Vendôme, pour l'ancienne sage du Conseil constitutionnel, ou finalement la rue de Grenelle, parce que votre expérience, je ne parle pas seulement de votre compétence, mais votre expérience était probablement plus grande en matière d'enseignement. En tout cas, votre parcours le montre. Vous avez toujours été attirée par la politique. Dès l'âge de 34 ans, vous vous lancez conseillère municipale et bien plus tard, vous acceptez sans vraiment hésiter d'être première adjointe à Toulouse, ville socialiste de quelques 500 000 habitants. Donc incontestablement, vous aimez le pouvoir et l'action politique, mais vous semblez vous réfréner aujourd'hui en étant membre du gouvernement. Certains sujets vous ont échappé sans que vous n'ayez osé apparemment le contester, comme le transfert de l'état d'urgence dans notre droit commun. C'était à vous, ministre de la Justice, de veiller peut-être à nos libertés publiques.
Réaction, Nicole Belloubet.
Je suis très heureuse comme ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je trouve que c'est un poste éminent et qui finalement donne une capacité à épauler un certain nombre de collègues, je veux dire épauler techniquement, puisqu'il y a beaucoup de textes qui sont rédigés à la chancellerie. Le ministère de la Justice, c'est d'abord le... Pas d'abord, mais enfin, c'est le ministère de la loi. Et donc,
c'est là qu'on prend la plume pour rédiger les propositions de loi.
Voilà, on prend la plume pour rédiger un certain nombre de choses. Donc, je trouve ça formidable, finalement, de pouvoir appuyer, épauler un certain nombre de collègues. Votre dernière observation.
Le projet de loi.
sur l'état d'urgence, la fin de l'état d'urgence. Non, ce dont il s'agit dans le projet qu'a porté Gérard Collomb, il s'agit bien de mesures administratives qui relevaient de son ministère. Malgré tout, les mesures qui sont édictées, pour la plupart, sont des mesures de police administrative. Mmh. Donc c'est bien de son ressort. Mmh. Il n'intervient pas lorsqu'il s'agit de justice.
Alors j'en profite parce que je trouve qu'il y a un autre dossier où on pouvait imaginer que vous auriez été comme ça plus en avant, c'est l'infraction sexuelle sur mineurs.
Mais là aussi, je suis plus qu'en avant. Mais si vous voulez, le propos du ministre de la Justice, enfin, c'est pas la course à l'échalote. Le propos du ministre de la Justice, c'est d'aider dans l'écriture d'un certain nombre de textes. Marlène Schiappa porte le dossier de l'égalité des femmes et des hommes. Elle le fait remarquablement. Moi, dans cet ordre d'idées-là, nous avons, les services de la chancellerie ont écrit les textes. Je connais parfaitement ces textes et je suis bien sûr en soutien total.
Vous les assumez tous?
Vous parlez de quoi, là, du projet
de l'ensemble des
mais
textes
et on va j'assume, en voir tout. J'assume tout.
Quelques-uns. Françoise,
surtout quand on écrit.
Alors précisément, il y en a un actuellement en discussion avec des prolongations de séances de nuit, des débats difficiles, y compris à La République En Marche, c'est le projet de loi Asile-Immigration. Est-ce que vous êtes totalement solidaire du gouvernement ou est-ce que vous comprenez les réticences de certains députés de La République En Marche à voter ce texte?
Nicole Belloubet.
Vous savez, Madame Fressoz, quand on est membre d'un gouvernement, on est, me semble-t-il, par définition, c'est le béaba, totalement solidaire de ce gouvernement.
Le lapsus est révélateur parce qu'on garde aussi sa liberté de parole.
On est toujours solidaire d'un gouvernement, sinon on ne reste pas dans ce gouvernement. Enfin, c'est ma conception en tout cas. Bien. Donc, cette question-là ne se pose pas pour moi. Ensuite, sur le contenu du texte, nous pourrons y revenir dans quelques instants. Évidemment, j'ai un regard qui est, qui va tout à fait dans le sens de celui du gouvernement, même si j'ai des points de départ qui portent sur des affirmations parfois différentes.
Mais vous comprenez qu'un député La République En Marche, comme Jean-Michel Clément, soit exclu du groupe à l'Assemblée
parce qu'il a décidé de voter contre
la loi Asile et Immigration.
Monsieur Alibadou, il n'est pas exclu du groupe, à ma connaissance.
Richard Ferrand, le président du groupe parlementaire, a menacé de l'exclure.
Non, mais si vous me laissez... Voilà, il faut aller jusqu'au bout des choses.
Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Comprenez-vous qu'il soit exclu s'il vote contre ?
Je n'ai pas entendu s'il vote contre. Donc, effectivement, attendons le vote.
Attendons le vote et nous verrons
ensuite ce qu'il se passera. Moi, je considère, si vous voulez, qu'au Parlement, c'est le lieu du débat. Une véritable démocratie, elle s'exprime par le débat. Même au sein du gouvernement, avant qu'un texte de loi ne sorte, il y a une phase cachée dans la préparation, pas cachée au sens de dissimulation, mais des réunions interministérielles où chacun fait état de ses hésitations, de son positionnement, de ses observations juridiques. Donc cette phase existe au sein du gouvernement. Une fois que le texte est décidé...
C'est pas la même chose à l'Assemblée.
À l'Assemblée, ce n'est pas la même chose. Il doit y avoir un débat, clairement. Et c'est cela qui est en train de se produire, qui s'est produit en commission des lois, qui continue à se produire, me semble-t-il, en séance. Mais dès lors qu'une position de groupe a été affirmée, il me semble assez logique que cette position soit respectée.
Malgré l'article 27 de la Constitution, le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
Absolument, le droit de vote est personnel. Mais vous avez une règle juridique qui doit être accompagnée d'une règle éthique.
On a vu des députés Front National... voter une mesure de ce projet de loi, hein, celle qui réduit le délai de première demande d'asile. Est-ce que vous pensez que les électeurs de gauche et de centre-gauche qui ont massivement l'an dernier, il y a un an, voté pour Emmanuel Macron, il y a un an jour pour jour, au premier tour, est-ce qu'ils ont voulu cela, selon vous? Vous êtes vous-même une femme de gauche, comme on l'a rappelé.
Nicole Belloubet.
Nous ne recherchons pas, vous l'imaginez bien, le vote du Front National. Nous sommes même en désaccord profond avec les thèses qui sont défendues par le Front National. Mais il me semble important de présenter l'économie d'ensemble de ce texte de loi. Sur quoi il est fondé, si vous me donnez vraiment une minute? Il est fondé sur quoi? Nous avons une devise dans notre République, liberté, égalité, fraternité. Le droit d'asile, il est fondé sur cette exigence de fraternité. Ce ne sont que des mots, je vous l'accorde, mais ces mots-là, ils caractérisent notre République. Et le droit d'asile, il est également écrit dans notre Constitution. Vous le savez mieux que moi. C'est le préambule de 46. C'est le préambule de 46, tout homme persécuté en raison de son action en faveur des libertés a droit d'asile sur tous les territoires de la République. Je trouve ce texte très beau. Et puis il y a encore un autre article que je ne citerai pas. Donc l'asile existe bien. Mais qu'est-ce que l'asile? Qu'est-ce que sont ces principes? Si nous ne sommes pas en mesure d'accorder des conditions décentes d'accès, bien sûr, nous sommes plus de 65 millions de Français et nous sommes en capacité d'accueillir dans une économie développée comme la nôtre. Et nous devons accueillir. C'est notre honneur, c'est notre constitution et c'est notre devise. Nous devons accueillir, mais il faut accueillir de manière décente. Et pour accueillir de manière décente, il faut à la fois des conditions d'hébergement, il faut des conditions de traitement des dossiers et il faut évidemment des conditions de départ. Je crois que c'est ce tout-là, cet ensemble qui doit forger notre philosophie.
Il n'y a donc aucun problème à ce que des députés d'extrême droite, des députés du Front National votent avec vous sur un texte que vous proposez.
Je ne veux pas, sur ce texte-là, rentrer dans de la tactique ou dans la tactique politique.
Non, mais
c'est une question politique. Ce texte n'a pas été écrit pour séduire le Front National. Et vous savez très bien que le Front National adopte des tactiques pour précisément déstabiliser l'ensemble de notre système de républicain. Oui, donc je ne veux pas rentrer dans ce
sens. Est-ce que malgré tout, la manière dont les choses dans ce texte est présentée, peut-être, est-ce qu'il n'est pas fait quand même pour séduire, à défaut des élus du Front National, son électorat? Ça, c'est ma première question. Et est-ce que les propos de Gérard Collomb, quand il parle de régions submergées par les demandeurs d'asile, est-ce que finalement, c'est pas avec cette conséquence d'avoir des élus du Front National aujourd'hui qui votent raccord avec des élus de La République En Marche?
Nicole Belloubet.
Est-ce que vous n'avez pas créé cette situation-là, finalement? Voilà ma question.
Non, nous n'avons pas créé cette situation. Le gouvernement actuel et le Premier ministre ont choisi d'élaborer un texte, Gérard Collomb l'a répété à de multiples reprises, un texte qui essaie d'être équilibré. Il essaie d'être équilibré, encore une fois, en enserrant les conditions dans lesquelles le traitement de la demande d'asile est effectué, dans des délais qui soient opportuns pour nous permettre de traiter à la fois plus rapidement mais plus efficacement ce délai. Et il y aura également, vous le savez, toute une démarche en faveur de l'intégration des personnes qui pourront rester sur
mais
le territoire de la République.
Les tensions à l'Assemblée,
donc je pense
Madame
que
la ministre.
C'est pour cela que le texte a été construit et ce n'est pas parce qu'on veut faire du racolage politique.
Mais est-ce
le
que la femme de gauche
n'est
pas gênée quand même
n'est
par
pas
les
dans
propos
le racolage
de
politique.
Gérard Collomb?
Pardon.
Est-ce que la femme de gauche que vous êtes, que je rappelais tout à l'heure, n'est pas gênée quand même par les propos
je
de Gérard Collomb?
Je vous ai dit qu'elles étaient mes propos, ils sont fondés sur la fraternité, ils sont fondés sur l'asile, ils sont fondés sur la dignité. Et c'est cela qui a conduit à l'élaboration de ce projet de loi que Gérard Collomb défend aujourd'hui.
Alors, il y a eu cet article 16 de ce projet de loi discuté dans une atmosphère extrêmement tendue à l'Assemblée hier, qui prévoit de porter de 45 à 90 jours la durée de rétention des étrangers en attente d'expulsion. Est-ce que ce texte-là, cet article-là ne vous pose pas problème? On a vu l'indignation d'un certain nombre de députés, notamment de la France Insoumise, dire que cet article normalisait le fait que des enfants puissent être enfermés 90 jours. La rétention d'enfants ne vous pose pas de problème?
Alors, je voudrais là-dessus, il faut également prendre la question dans son ensemble. Aujourd'hui, monsieur Badou, au moment où nous parlons, la loi permet déjà que des enfants puissent être dans un centre administratif avec leurs parents. Et je crois que là, comme ailleurs, il faut une question d'équilibre. Pourquoi est-ce que la loi aujourd'hui, qui est une loi de 2016, pourquoi est-ce que cette loi autorise aujourd'hui, pour une durée moins longue, je vous l'accorde, pourquoi est-ce qu'elle autorise déjà le placement des enfants avec leurs parents?
Il serait 300, c'est, un peu plus de 300 selon la CIMADE.
C'est l'idée de ne pas séparer les familles, c'est l'idée de pouvoir ne pas prendre appui sur des enfants pour ensuite ne pas pouvoir expulser leurs parents s'ils sont dans cette situation-là. Donc c'est l'idée de ne pas séparer les familles.
Mais il n'y a pas d'autre solution que d'enfermer les enfants?
Alors il faut les séparer.
Je
ne suis pas favorable à cette idée-là. Il faut que ces familles puissent être hébergées dans le temps de la rétention, de manière décente. Et par ailleurs, Je tiens à redire que le texte de loi aujourd'hui, et de ce point de vue-là, il ne sera pas changé, place l'intérêt supérieur de l'enfant avant toute chose. Autrement dit, ce ne peut être qu'une solution exceptionnelle, cela ne peut être enserré que dans des délais raisonnables. La notion de délai raisonnable est une notion qui est extrêmement utilisée en droit et très utilisée par la Cour européenne des droits de l'homme.
Qui a condamné France plusieurs fois.
Oui, mais
sujet précis, justement.
Oui, mais dans des hypothèses très particulières. Donc, ce qui est ici traité, me semble, si c'est utilisé avec vraiment très grande observation de ce qu'est l'intérêt supérieur de l'enfant, il me semble que c'est possible.
Un mot encore, avant de changer de sujet, vous avez vu dans l'actualité cette action spectaculaire d'une organisation d'extrême droite dans les Alpes pour interdire l'accès du territoire français aux migrants. Quel regard avez-vous porté sur cette intervention de ce groupe et faut-il dissoudre Génération Identitaire ?
Alors écoutez, ça c'est une question qu'il faudra poser au ministère de l'Intérieur sur la dissolution de Génération Identitaire. Là encore, moi je dis, et c'est un petit peu en lien avec ce qui est actuellement en débat au sein de l'Assemblée nationale, il y a des questions humanitaires qui doivent primer. Et c'est précisément ce qui est actuellement en discussion avec un amendement du gouvernement. Mais là aussi, il y a une question d'équilibre. Il ne faut pas que sous couvert d'humanité, ce soit une façon de détourner le principe de la loi et de permettre de faire entrer sur le territoire des personnes dont on sait très bien qu'ils n'ont
pas accès. Là, on parle de la situation extrêmement, vraiment inverse.
Oui.
Génération Identitaire, ceux qui interdisent donc l'entrée sur le territoire. Vous n'avez pas d'avis sur la dissolution de ce groupe ?
Je souhaite laisser cette question au ministère de l'Intérieur.
En votre fort intérieur. Françoise.
Un mot sur quand même un des faits marquants de la semaine, c'est cette évacuation de la faculté de Tolbiac. Comment vous analysez ce mouvement étudiant ? Est-ce que vous pensez que c'est un groupuscule politique qui agite les étudiants ou est-ce que vous pensez qu'il y a un véritable malaise ? Et si oui, comment répondre à ce malaise ?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui entrent dans une crise telle que celle-ci, si vous voulez. D'abord, je voudrais dire que le texte de loi qui a été adopté par le Parlement, nous parlons bien d'un texte qui a été adopté à une très forte majorité par le Parlement et qui précise les nouveaux critères d'entrée en première année d'université. Ce texte me semble répondre à des dysfonctionnements majeurs, et à une forme d'hypocrisie qui existait précédemment. Lorsqu'on dit ce qui est l'objet, que l'université est ouverte à tous, théoriquement c'est vrai. Mais je suis professeur d'université.
Oui.
Mon seul vrai métier, c'est celui-là. Je suis professeur d'université et j'ai pu observer que en droit, par exemple, vous avez des tas de jeunes qui s'inscrivent là et qui, découragés, au bout de 3 mois ou de 6 mois, quittent l'université. Tout simplement parce que, selon
le... En droit, la sélection existe, ça on le sait.
Mais non, elle existe
en
pas.
En médecine aussi, elle
existe. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Il n'y a aucune sélection en droit. Au moment où nous parlons, il n'y a aucune sélection en droit.
Ça, c'est pas en première année. Mais il y a un écrémage extrêmement violent à la fin de la première et deuxième année.
C'est ce que je vous dis. Vous venez à mon... Vous volez à mon secours, monsieur.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sélection qui ne s'avoue pas.
Ce que vous dites, c'est que finalement, on laisse s'inscrire tout le monde, ce qui est une forme d'hypocrisie. Et puis, parce que les enseignements en droit, alors je ne sais pas s'ils sont mal construits ou peu importe. En tout cas, le fait est qu'au bout de 3 mois ou de 6 mois, les étudiants s'en vont. Et je suis totalement hostile à cela. Je pense qu'il vaut mieux dire la vérité aux jeunes qui viennent chez nous en leur disant « voilà ce qu'on va attendre de vous ». Si c'est cela que vous voulez faire, alors il faut vous mettre à niveau sur tel ou tel sujet. Sinon, vous avez aussi telle autre filière qui vous est ouverte. Et c'est ce que propose le texte qui a été adopté et qui est mis en œuvre avec Parcoursup. Alors maintenant, je comprends les difficultés de mise en œuvre pratique. Et Madame Frédérique Vidal... Ma collègue est très attentive, est très attentive à cela et est très, très en lien avec les présidents d'université sur ce sujet. Donc, si vous voulez, tout cela, je le comprends, peut générer des inquiétudes. Ça ne, sur lequel se greffent sans doute des motifs politiques et d'extrémisme par ailleurs, ça ne justifie en aucune manière ce qui s'est passé à Tolbiac. Enfin, je veux dire, l'occupation.
Si vous le permettez,
on passe à la justice.
Par rapport à cette question, pourquoi alors les étudiants, si vous voulez améliorer les choses, si vous voulez que la sélection soit moins injuste, qu'on arrête justement ce qui se passait aujourd'hui avec des tirages au sort parfois pour entrer à l'université, pourquoi les étudiants ne le comprennent pas et au-delà des activistes, pourquoi une grande partie d'entre eux sont inquiets de cette réforme ?
Nicole Belloubet.
C'est un manque de pédagogie de votre part.
Je crois que tout est affaire d'explication. Et que
il y en a eu des explications, madame.
Pardon ?
Il y a eu beaucoup d'explications depuis des semaines.
Oui, oui. Je crois que tout est affaire d'explication. Et puis que là, on arrive, je dirais, au moment où les choses se font concrètement, les universités effectuent le travail qu'elles ont à faire. Donc je crois que tout cela génère des inquiétudes. Il me semble qu'avec des explications, en montrant ce que sont les passerelles, parce que dans la réalité, cela existe dans certains endroits déjà, ce système-là. Et donc, je pense que ça devrait calmer les inquiétudes des étudiants qui, avec bonne foi et avec souci de clarté, seront en mesure d'accepter les explications qu'on leur donnera.
La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, l'invitée de France Info, du journal Le Monde et de France Inter.
Question politique sur France Inter.
Madame la ministre, vous présentiez ce vendredi au Conseil des ministres une importante réforme de la justice. On compte sur vos talents de pédagogue pour nous expliquer d'abord l'esprit de cette loi et puis assez précisément ce qu'elle va changer dans le rapport que nous entretenons, que tous les concitoyens entretiennent avec cette institution. Karine Bécart, puis Françoise Pressoz.
Alors vous faites le pari d'une réforme qui s'attaque à tous les problèmes en même temps, j'ai envie de dire. Pourquoi pas ? C'est vrai que souvent tous les sujets sont liés. Mais en même temps, bousculer toutes les professions d'un coup, c'est-à-dire les magistrats, les avocats, les huissiers, est-ce que c'est pas le meilleur moyen malgré tout de faire capoter sa réforme ?
Nicole Belloubet.
Bien, je ne l'espère pas et je pense que non. Je pense que non parce que, comme vous le disiez, Madame Bécart, tout est lié. Dans cette réforme, par exemple, nous proposons une numérisation importante des procédures, mais pour numériser avec efficacité, il faut simplifier. Et donc, nous devons simplifier les procédures. Autrement dit, juste un exemple de simplification. Aujourd'hui, quand un citoyen veut aller devant un tribunal, il y a 5, en matière civile, je ne parle pas du pénal, il y a 5 manières de présenter son dossier au tribunal. Nous voulons le ramener à une seule requête, une seule façon de présenter. Et donc cela, c'est important. C'est important parce que ça simplifie les choses pour le justiciable. Et derrière, ça va nous permettre de numériser cette procédure. Ça ne veut pas dire que le papier va disparaître si les citoyens ne sont pas en mesure de...
Mais vous devez affronter en même temps les magistrats, et les avocats, oui. Et les huissiers,
alors,
et
d'autres professions de la
justice qui sont très corporatistes en plus.
Ce sont sur des champs différents, si vous voulez. Il y a des oppositions de magistrats sur le rôle du juge d'instance, il y a des oppositions en matière pénale. C'est vrai que ces oppositions existent, mais il me semble qu'on peut leur répondre de manière singulière.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir affaire à une justice assez corporatiste ? Parce qu'au fond, on voit les avocats se mobilisent.
Moi, je ne peux pas utiliser, ça ne m'intéresse pas, ça, si vous voulez. Franchement, vous avez peut-être raison, vous avez peut-être tort, j'en sais rien, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir dialoguer avec les gens, parce qu'il est vrai que dans les propositions que nous avons faites, nous avons déjà beaucoup dialogué avant. Dans l'écriture que nous avons proposée, il y a sans doute des améliorations à apporter. C'est ce dialogue-là qui m'intéresse, ce sera le lieu du débat parlementaire. Je ne veux pas raisonner
parce
en corporatiste,
parce que ce qu'on
ne
comprend pas très bien,
etc.
C'est quand on vous entend, vous dites finalement on va simplifier, rendre l'accès à la justice beaucoup plus facile. Et quand on entend les avocats, c'est oulala, attention, ils veulent qu'on se passe du juge d'instruction, c'est une justice au rabais. Donc comment est-ce que vous allez... rapprocher les points de vue.
Je discute beaucoup avec les avocats. D'une part, avec les représentants nationaux qui étaient dans mon bureau encore vendredi. Je leur ai présenté l'économie de la réforme après l'avoir présentée au Conseil des ministres. Et puis, lorsque je me rends en province, je discute avec tous les barreaux locaux. Et quand on parle, eh bien, les points de désaccord s'amenuisent. Il y en a. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais ils s'amenuisent. Là encore, j'explique. C'est une réforme qui, à la fois, est très ambitieuse, qui est aussi très technique, parce que au fond, il y a une soixantaine d'articles. Chacun de ces articles est assez technique. Et donc, lorsqu'on explique ce que l'article en question veut dire, je pense qu'il y a plus d'accords que les désaccords bruyants qui s'expriment.
Jeff Wittenberg.
Alors, l'une des mesures prévues dans cette réforme, c'est la suppression des jurys populaires pour les procès où la peine encourue est de moins de 20 ans. Est-ce que, si cette mesure est votée, au bout du compte, est-ce qu'elle ne va pas abîmer la confiance que les citoyens ont dans la justice, parce que la justice, elle est rendue au nom du peuple? Si le peuple ne la rend pas, bien, est-ce qu'elle l'est encore ? Et j'ai une deuxième question. Pourquoi avoir, dans ce cas, gardé les jurys populaires pour les procès les plus graves ? Pourquoi ne pas être allé au bout de cette logique et supprimer partout les jurys populaires ?
Nicole Belloubet.
D'abord, M. Wittenberg, quand vous dites supprimer la confiance que les Français ont dans la justice, j'aimerais que ce soit vraiment le cas. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire qu'il y a une défiance, encore que des sondages montrent qu'au fond, les Français trouvent que la justice est trop obscure, trop lente.
Oui.
Et donc,
et vous pensez qu'elle le sera moins en supprimant les jurés européens?
Je pense qu'elle le sera moins du fait de l'ensemble de la réforme que je propose. Sur la question que vous évoquez, nous proposons d'expérimenter, Monsieur Wittenberg, c'est pas quelque chose de définitif, nous proposons d'expérimenter dans une dizaine de départements la mise en place de tribunaux criminels départementaux qui pourront juger des crimes avec des magistrats professionnels, 5 magistrats professionnels.
Pour que les choses soient très claires, ces crimes, oui. Ça peut être des viols, ça peut être des meurtres.
Oui. Non.
Non, ça peut être...
Effectivement, nous avons...
Passibles de moins de 20 ans de prison,
voilà,
en tout cas.
Des
vols avec armes.
Des crimes, voilà. Ce sont des crimes qui sont passibles de 20 ans de prison. Au-delà, oui. Nous avons laissé subsister la cour d'assises en
et
première
pourquoi,
instance.
Alors, justement, pourquoi et
nous
cette
avons...
différence?
Eh bien, parce que c'est une expérimentation que nous faisons. Nous voulons donc voir ce que cela donne au bout de 3 ans. Je voudrais juste dire ici que actuellement, la difficulté que nous avons, c'est d'une part que les cours d'assises, parce que la procédure est formidablement complexe, parce qu'il faut constituer les jurys, parce qu'il faut former les jurés, la procédure est très lente. Donc il nous arrive d'être condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme. Régulièrement, nous ne sommes pas le pays le plus condamné par la Cour européenne. Mais sur ce point-là...
Non, mais dans les grandes démocraties occidentales, nous sommes très bien classés.
Pas tellement, non. Pas tellement. Non, je vous arrête là-dessus. C'est une idée fausse, là.
Ah, mais
Monsieur Raimondi, le président de la Cour européenne des droits de l'homme, nous disait que la France faisait partie des États qui étaient les moins condamnés par la Cour en jugement définitif.
Mais là, elle le sera encore moins avec cette réforme.
C'est autre chose.
Vous pensez qu'elle le sera encore moins avec cette réforme?
En tout cas, ce que nous voulons, c'est pouvoir obtenir des jugements sur les crimes qui soient plus rapides. Et cela évitera à des personnes victimes ou bien auteurs qui sont condamnés pour des crimes, de parfois demander la déqualification du crime en délit, tout simplement parce que ils veulent pouvoir obtenir un jugement plus rapide et donc pouvoir obtenir un jugement par le tribunal correctionnel. C'est la raison pour laquelle nous proposons cette expérimentation.
Et le symbole des jurys populaires né de la Révolution,
Le symbole demeure. Le symbole demeure puisque en appel, la Cour d'assises demeure. En appel, la Cour d'assises demeure. Et juste un dernier mot, Monsieur Wittenberg, je vous rappelle que tout les tribunaux, tous, jugent au nom du peuple français, y compris ceux qui sont, c'est le cas pour la plupart d'entre eux, composés de magistrats professionnels. Seul le Conseil constitutionnel
c'est une exception.
À mon grand désespoir.
Et la France est le 12e État le plus condamné sur les 47 que compte le Conseil de l'Europe. On n'est donc pas si mal classé, comme je le disais, on est dans le premier tiers, mais la question se pose aussi donc concernant la surpopulation carcérale. On apprenait, n'est pas une nouvelle, mais que la population en prison ne cesse d'augmenter. Plus de 70 000 personnes aujourd'hui. D'abord, pourquoi expliquer ce problème français et expliquez-nous aussi ce paradoxe. C'est pas populaire d'investir pour améliorer les conditions de détention des détenus. En revanche, c'est populaire de construire des prisons.
Non, je suis pas d'accord avec vous.
Vous n'êtes pas d'accord.
En tout cas, je suis pas d'accord avec moi-même, alors. Ou avec vous-même.
Ça, c'est plus compliqué. Je veux bien que vous ne soyez pas d'accord avec moi, mais. Il y a un paradoxe.
Non, il n'y a pas de paradoxe. Si vous voulez, ce qu'on veut faire, c'est. L'objectif, c'est vraiment de remettre les choses en ordre de marche. Ça veut dire, refaire une politique pénale. Parce que vous attaquez par les prisons. En disant surpopulation et conditions de détention qui ne sont pas toujours dignes, vous avez raison, pas toujours dignes.
Pas toujours dignes.
Il y a des établissements pénitentiaires qui ne connaissent pas de surpopulation, généralement ce sont les centres de détention pour longue peine et où les conditions de détention sont tout à fait correctes. Mais bref, dans beaucoup d'hypothèses, effectivement, conditions de détention indignes et surpopulation. 70 000 détenus, vous le dites, on a 60 000 places. Pour faire court, donc
et c'est un problème ancien. On ne le découvre pas aujourd'hui.
Mais si vous voulez, comment est-ce qu'on peut résoudre cette question-là en remettant les choses en ordre de marche, c'est-à-dire en reconstruisant une politique pénale? C'est ce que nous proposons de faire et c'est ce que le président de la République a exposé à Agen.
Reconstruire une politique pénale, c'est pas construire des prisons.
et en construisant, je dis remettre les choses dans l'ordre de fonctionnement. On construit une politique pénale, on regarde les résultats et on adapte la construction des prisons à ces résultats. Reconstruire une politique pénale, quel est l'objet de ce que nous voulons faire ? C'est d'une part avoir des peines qui soient adaptées aux personnes qui sont condamnées, et d'autre part, quand les peines sont prononcées, qu'elles soient exécutées, et qu'on ne fonctionne pas sur la perte de crédibilité ou l'hypocrisie à nouveau qu'on a aujourd'hui, où une peine de prison, par exemple, est prononcée pour 18 mois, et où la personne condamnée n'ira jamais en prison, parce qu'il y a un système d'aménagement dès le départ de la peine qui fait qu'elle n'ira jamais en prison. Donc nous, nous disons, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc on met en place des peines adaptées, par exemple, quelqu'un qui va être condamné sur une infraction, je ne sais pas, d'absence de permis de conduire ou de conduite sous emprise d'état alcoolique et que c'est une récidive à plusieurs reprises, je ne suis pas certaine qu'il ait vraiment besoin d'aller dans un centre de détention avec Mirador, etc. Donc, nous allons mettre en place une peine adaptée à ce condamné-là. En revanche, pour d'autres personnes, l'emprisonnement est indispensable, donc il y aura emprisonnement. Et si la peine d'emprisonnement est prononcée, elle est exécutée, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne fera jamais l'objet d'aménagement, mais après qu'elle ait été exécutée.
En fait, Françoise, ce qu'on découvre, quand vous parlez de l'état de la justice, c'est qu'on est quand même dans un système extrêmement délabré, où effectivement les peines prononcées ne sont pas toujours exécutées. Comment expliquez-vous qu'on ait laissé un tel délabrement s'installer ?
Nicole Belloubet.
Parce que je pense que je ne suis pas sûre d'avoir la totalité des réponses et ici je ne mets pas en cause toutes les personnes qui ont tenté de résoudre ces questions-là. Et je rappelle que la justice, c'est un système profondément humain. C'est pas une histoire mathématique où on appuie sur tel bouton et où il se passe telle chose. Nous reconstruisons une politique pénale dont nous imaginons qu'elle va produire des effets, mais tout cela est très humain, donc très sensible. Et
mais
ce n'est pas automatique.
Mais ça fait des décennies que la justice française est un parent pauvre.
Oui, mais alors là-dessus, si vous voulez, la réponse que nous apportons est très claire. Nous augmentons considérablement les moyens de la justice,
24%.
Puisque dans la loi de programmation et de réforme de la justice que je présenterai, en 5 ans, c'est 1,6 milliard d'euros en plus, c'est 6 500 emplois supplémentaires. Cela devrait, joint à ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire à une autre politique pénale, à de la numérisation, des procédures, à des procédures simplifiées, ça devrait dégager du temps de magistrat, du temps de personnel de justice, qui s'ajoutera lui-même à la création d'emplois. Donc j'espère que le système va s'améliorer. Je le dis avec modestie, je vous le disais, parce que ce n'est pas quelque chose de mathématique, mais nous espérons que l'ensemble de ces réformes va permettre une amélioration. Et c'est la raison pour laquelle, je reviens à la question que posait Madame Bécart, même si cette politique de construire une réforme d'ensemble, donc une réforme assez ambitieuse, elle comporte des risques que je ne méconnais pas, il me semble que c'était la seule solution pour les raisons que je viens d'exposer.
Alors dans cette politique pénale, il y a également le recrutement de 1100 surveillants.
Pas seulement, oui, 1100 surveillants supplémentaires par rapport à ce qui était prévu.
Exactement. La question, c'est quand même, comment vous les trouvez, ces 1100 surveillants, dans la mesure où les concours pour le devenir, en général, il y a moins de candidats que de places qui sont proposées.
Non, il n'y a pas moins de candidats que de places.
En janvier, quand vous étiez dans ce conflit avec les établissements pénitentiaires, et notamment les surveillants, c'est ce qu'on entendait clairement dire, qu'aujourd'hui, il y avait de moins en moins de gens candidats pour devenir effectivement surveillants.
Mais n'est pas tant de trouver les candidats. Et quand je suis allée à l'ENAP, j'ai vu la manière dont ils étaient formés et tout cela. Et j'ai vu beaucoup d'engagement de la part des personnes qui étaient recrutées. Je sais que vous ne dites pas le contraire. C'est pas tellement ça notre difficulté. Notre difficulté, c'est de fidéliser ces personnels. Parce qu'ils sont
très vite, ils s'en vont.
Pardon.
Très vite, ils s'en vont
parce que les conditions de travail ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'ils ont imaginé. Ils s'en vont parce que nous ne sommes peut-être pas suffisamment capables de leur proposer des logements,
rendre attractif.
Eh bien, voilà, l'attractivité, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une prime qui a été à la suite du mois de janvier, une prime de 8000 euros sur 5 ans dans certains établissements pénitentiaires pour que les personnels de surveillance restent là. Et je veux surtout, c'est ce qui me semble essentiel, revaloriser le travail qu'ils font. En leur donnant aussi, en prenant en compte leur rôle, c'est eux qui sont au contact des prisonniers. C'est eux qui les connaissent le mieux. Il faut absolument qu'on les écoute quand on parle d'un prisonnier. Et puis, je crois qu'il faut leur proposer aussi des perspectives de carrière.
Et qu'on puisse effectivement les sanctionner lorsqu'ils se rendent coupables de mauvais traitements. Lorsqu'on voit, par exemple, l'Organisation internationale des prisons qui dénonce des brimades, des humiliations quotidiennes, fouilles abusives, cantines écrasées, courriers déchirés, propos déplacés et racistes dans la prison de Villefranche-sur-Saône. Il faut aussi une action du ministère public ?
Ce que vous dénoncez n'est pas tolérable. Non, pas que vous le dénonciez, les faits que vous dénoncez ne sont pas tolérables. Et l'administration pénitentiaire est très vigilante là-dessus, et l'administration pénitentiaire sanctionne quand sous cela apparaît prouvé que c'est nécessaire, évidemment.
Jeff, dans le nouvel arsenal de peines que prévoit votre réforme, il y a la création d'amendes forfaitaires pour usage de stupéfiants plutôt que la détention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle sera efficace pour lutter contre les trafics de drogue qui gangrènent les quartiers, beaucoup de quartiers en tout cas. Je reprends les derniers chiffres sur 140 000 interpellations pour consommation de drogue. 3000 peines de prison seulement ont été prononcées, c'est très peu. Donc qu'est-ce que ça va changer, ces amendes ? Est-ce qu'il y aura une dissuasion par l'amende de 300 euros ?
Nicole Belloubet.
Ce que nous voulons avec cette amende forfaitaire, qui reste une amende délictuelle, c'est-à-dire c'est pas une contravention, c'est une amende délictuelle. Donc nous simplifions le prononcé, ce qui est important pour les forces de l'ordre. Parce que ça va leur permettre, lorsqu'il y a un fait de consommation, de pouvoir prononcer une amende. Ce sera plus rapide que l'ensemble des procédures. Mais cela reste un délit, donc ça n'interdira pas la garde à vue et ça n'interdira pas de remonter éventuellement une filière si
cela est
nécessaire.
Parlons par exemple aux consommateurs de cannabis, là vous vous adressiez aux forces de l'ordre, mais parlons aux consommateurs de cannabis, il se fait arrêter.
Mais je m'adresse aux forces de l'ordre, mais aussi aux tribunaux derrière,
bien sûr.
Entendu, hein, parce que cet allègement de procédure, cela vaudra
également. Mais il y a plus de consommateurs de cannabis que de policiers probablement dans ce pays,
ça,
Nicole Belloubet, je ne sais pas non plus, mais bon, il se fait arrêter, interpellé par la police.
Oui, qui va lui donner une amende.
300 euros.
Voilà, et cette amende étant prononcée, les choses s'arrêteront là, sauf
s'il ne paye pas.
Ah ben à ce moment-là, on entre dans le système classique.
Mais il n'est pas question de dépénaliser l'usage du cannabis, par exemple.
Non, c'est un choix qui a été discuté au sein du gouvernement. La question de la dépénalisation n'a pas été discutée. Ce qui a été discuté, c'est contravention ou délit. Le choix a été fait du maintien d'un délit, précisément pour ne pas... empêcher, le cas échéant, des poursuites après une garde à vue.
Si je peux me permettre, Madame la ministre, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. En quoi cela va permettre de mieux lutter contre les trafics, puisque j'imagine que c'est quand même le but de votre
gouvernement. Parce que ça va dégager du temps de travail policier et magistrat. C'est l'objet de cette... C'est un des objets de cette mesure, c'est de dégager du temps de travail, de la force de travail, aussi bien pour les policiers que pour les magistrats. Et donc c'est pour cela que cela a été construit, tout en n'empêchant ni les réponses en termes de politique publique de santé, ni des réponses pénales, si cela est nécessaire pour la poursuite.
Il nous resterait peu de temps. Karine, et puis j'aimerais bien qu'on vous entende aussi sur l'exercice du pouvoir dont parlait à la fois Françoise et Karine tout à l'heure en début d'émission.
Alors, je voulais vous parler un instant quand même des boxes vitrées qui font leur apparition.
Mon sujet préféré, j'ai l'impression.
Je voudrais juste savoir, c'est dans le nouveau tribunal à Paris,
oui.
Sont apparues des boxes vitrées, ce qu'on connaissait assez peu en France.
Non, il y en a dans tous les tribunaux de France.
Est-ce que vous maintenez quand même les 9 boxes vitrées sur les 23 salles d'audience, si j'ai bien compris ?
Écoutez, je pense là aussi, il faut comprendre l'ensemble très brièvement. C'est d'une part, le garde des Sceaux est garant, d'une part, de la sécurité des magistrats, du public, des avocats, des prévenus. Et d'autre part, le garde des Sceaux est garant de la dignité des procès, des grands principes du droit de la défense.
En quoi ils sont en insécurité en ce moment ?
Eh bien parce qu'il y a des personnes qui sont prévenues, qui eux-mêmes sont dangereux ou qui comportent des risques. On l'a vu récemment, il y a eu des incidents à la cour d'assises de Montpellier. Lorsque vous avez un procès terroriste, il peut y avoir des incidents. Lorsque vous avez des procès criminalité organisée, il peut y avoir des incidents.
C'est la raison pour laquelle
nous avons souhaité que quelques boxes vitrées puissent être maintenues dans les tribunaux. Mais je l'ai dit et je le redis ici, cet équilibre doit être préservé. Nous sommes aussi garants de la dignité des personnes qui comparaissent. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite que, quand il y a des boxes vitrées, je ne veux pas qu'il y en ait partout ni dans toutes les salles. Quand il y en a, il faut que les conditions d'audition et d'écoute du prévenu soient parfaites et qu'il n'y ait aucune
intimité. Et que ce ne soient pas des cages.
Absolument.
Françoise.
Et donc, on fera démonter quelques boxes. On fera démonter des boxes.
Il en reste 9.
Il en reste 9. Ça, c'est le président du tribunal, les chefs de juridiction qui verront ce qui est nécessaire dans ce souci de proportionnalité.
Alors, pour terminer, comment existe-t-on dans l'ombre d'Emmanuel Macron, au bout de un an de pouvoir.
L'ombre d'Emmanuel Macron. Je n'ai pas le sentiment, pardonnez-moi, je vous reprends sur ce thème ombre, je ne vis pas les rapports avec le chef de l'État comme étant dans l'ombre ou au soleil, je vis ces rapports-là comme faisant partie du gouvernement du Premier ministre. Et ce n'est pas une question d'ombre, je trouve que les rapports sont très fluides, très faciles, nous dialoguons en permanence et avec le Premier ministre et avec le chef de l'État, nous évoluons, nous pouvons vraiment, au sein de ces dialogues, faire évoluer les positions des uns et des autres, je trouve que tout cela est très aisé.
L'ancienne socialiste que vous êtes n'a aucune nostalgie pour le précédent quinquennat, François Hollande.
J'ai beaucoup de respect pour le chef de l'État, d'ailleurs parce que par définition j'ai du respect pour les autorités institutionnelles de notre République. Et ensuite, je n'ai pas de nostalgie, ce n'est pas dans mon tempérament.
Merci infiniment Nicole Belloubet, je vous souhaite un bon dimanche. Merci à Alexandre Gilardi qui a préparé cette émission. Question politique se termine. Quant à moi, je vous retrouve juste après le journal pour le grand face-à-face de France Inter. A tout de suite donc.